Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 23 mars. Vous écoutez Flash sur le monde par Élise Mbok depuis Yaoundé. Alors, je précise vraiment avec beaucoup de malice la situation depuis Yaoundé parce qu'on va parler un peu de Yaoundé, on parle beaucoup des États-Unis, qui en ce moment aussi sont en train de, comment dire, de faire campagne pour novembre 2024. Il y a aussi la Russie dont on va parler, mais commençons par le Cameroun et par Yaoundé. Yaoundé, nous assistons ici aussi à des soubresauts de début de campagne présidentielle prévue en 2025. Mais vous savez, l'Afrique, hein, on est toujours un peu dans le ridicule parce que nous n'avons pas la maîtrise du temps, qui nous échappe toujours. Enfin, il nous échappe. C'est pas nous qui le maîtrisons, c'est les autres qui le maîtrisent à notre place. Et puisque nous avons comme ça une facilité qui est très africaine, finalement. Pour pas dire noir, facilité de s'adapter en un temps qui est absurde, voilà, c'est le mot absurde parce qu'il correspond à rien, il n'a pas de sens. Là, déjà, on panique pour enfin, ceux qui sont en place paniquent pour la prochaine réélection qui semble incertaine, compte tenu au regard de tout ce qui se passe en Amérique, sur la scène internationale, du côté de Gaza, et ce qui se passe aussi en Ukraine, du côté de la Russie. Alors tout ça fait craindre beaucoup de choses ici, d'abord parce que aussi, au regard, j'ai pas précisé, de ce qui s'est passé au Sahel, où le Burkina, le Niger et le Mali, à la faveur de ce qu'on appelle des coups d'État, mais alors vraiment, qui étaient des actes de destitution des chefs d'État très corrompus. Donc, tout le monde a applaudi quand même. Enfin, le monde ici, côté sud, on a applaudi cela. Donc, là aussi, ça fait trembler Yaoundé qui va interdire, déjà, premier acte, on interdit toutes les coalitions entre les partis dits de l'opposition. Ah oui, parce que ça peut faire des ordres, ça peut donner des idées révolutionnaires, éventuellement, on ne sait pas, ça peut déborder. Et donc, on interdit cela tout de suite. Vous voyez, il y a déjà une certaine fébrilité de Yaoundé comme ça, avant l'heure. Vous vous rendez compte, si on dit que c'est des choses de octobre, je ne sais pas trop, disons fin, le dernier trimestre de 2025, on a quand même le temps. Hein. Je ne sais pas pourquoi on panique maintenant, mais c'est que le Sahel, du côté de ces trois pays qui ont vraiment pris le taureau par les cornes pour sortir de la dépendance terrible vis-à-vis forcément de la France, mais de tout le reste, dont de l'Amérique aussi, et de ce qu'on appelle l'Occident, c'est-à-dire l'Union européenne qui gère l'Union africaine, vous voyez un peu. Donc ces trois pays, Burkina, Mali, Niger, sont sortis de la CEDEAO, qui est une communauté économique de l'Afrique occidentale, blablabla. Ils sont plus membres parce que c'était des farces. Et forcément, l'Union africaine, on n'entend plus parler, ça n'a pas d'existence, parce que l'Union africaine, c'était un projet dont on a attribué la paternité à Kwame Nkrumah, président du Ghana. C'était un projet, le premier président du Ghana, c'était un projet qui avait vraiment une ambition, hein, de souverainisme, bien sûr, de l'Afrique. C'était grandiose, le panafricanisme. C'était très beau pour être vrai, très romantique. On allait faire les États-Unis de l'Afrique, en gros. Ça foirait, forcément, parce que les puissances de l'autre côté, quand ils ont attribué les indépendances factices, elles savaient très bien que ce n'était pas pour l'indépendance ou la liberté. C'était juste pour s'adapter à une demande et à une pression qui rendait les affaires compliquées. Alors, comment faciliter ces affaires? Il fallait juste passer sous couvert de dirigeants qui seraient là, comme des, comment on va dire ça, des espèces de... Oh, c'est pas des esclaves, mais vous savez, c'est pas que j'ai oublié, on met des trucs dans les champs, là, les épouvantails, voilà, pour faire peur, faire qui ont une forme humaine. On va dire, c'est les dirigeants, mais en gros, c'est le vent qui les dirige. Et le vent, c'était toujours ces puissances occidentales. Donc, ça avait de la gueule, cette histoire de panafricanisme. Et puis, au fur et à mesure, l'Union africaine s'est perdue. Et Kadhafi est celui qui a voulu rattraper un peu tout cela, remettre vraiment l'Afrique au cœur du projet, on va dire, planétaire. Vous savez bien tout ce qui est arrivé. Et donc, d'ailleurs, on retrouve aujourd'hui les traces. On va parler de la Russie tout de suite avant de revenir sur le Cameroun. On voit bien qu'en Russie, là, l'OTAN n'a pas gagné la guerre ouvertement. Poutine l'a gagné, ce que ces gens-là ne supportent pas, parce qu'ils n'ont pas l'habitude des conflits ouverts, transparents, avérés. Non, 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 avec la doctrine de la Croix-Rouge, respect des prisonniers, respect des crimes contre l'humanité. Vous voyez un peu tout ça, ils n'ont pas l'habitude de ça. Eux, c'est des guerres sous-marines, hein, ça rappelle le Nord Stream, c'est des projets de barbouzes, c'est des voyous qui font la guerre, c'est des terroristes en fait. Donc, n'ayant pas pu gagner, et Poutine ayant eu cette interview de Carlson qui était quand même quelque chose, ça les a piqués au vif. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On refait du Benghazi, c'est-à-dire qu'on a recruté des gars là-bas russes pour foutre la merde. On passe par eux, on passe plus par l'Ukraine, hein, parce que Zelensky, je crois que ça donne plus. On passe maintenant par les Russes eux-mêmes, on a trouvé des gars là-bas volontaires pour déstabiliser le pays. Et voilà, il y a des explosions, les raffineries qui explosent, c'est tellement lâche, d'une lâcheté, parce qu'ils frappent là où ils meurent d'envie, voilà, les raffineries, le pétrole, le Nord Stream, c'était déjà ça, le gaz. De la Russie, ça les tue, le pétrole, ça les tue encore plus, c'est les raffineries qui explosent, c'est vraiment du terrorisme, la guérilla qui va entrer comme ça. Et récemment, on nous dit que c'est un concert, une salle de concert qui a explosé, un peu ce qu'on a eu au Bataclan à Paris. Bon, c'est des actes tellement lâches et ISIS, je sais plus, qui avait disparu des radars. On nous a fait croire que Obama nous a dit qu'il avait éliminé ISIS et on retrouve ISIS qui est là, qui dit oui, ben on revendique l'attentat. C'est tellement cousu main, c'est tellement gerbé quoi, que si on s'est dit, ben c'est ça les États-Unis, c'est ça l'OTAN, c'est ça l'Occident, des gens sans foi ni loi. On est vraiment, c'est un western, mais seulement, sauf qu'au western, c'était des hommes, quoi, avec les flingues et tout, on les voit. Mais là, c'est des espèces de tapettes, excusez-moi du mot, qui rampent dans les canaux, boueux, je sais pas quoi, de la technologie, de tout ce que vous voulez. Et ça va trouver des gars qui sont des enfoirés, qui trahissent leur pays. Vous voyez, c'est cette culture rampante, la pieuvre, comme ça, qui gangrène le monde et qui gangrène l'Afrique. Parce que c'est les mêmes dirigeants. Alors ici, pour parler de Yaoundé, on a pris campagne. Donc un, les partis, la liberté, vous oubliez, hein, parce que ces gens-là, avec la liberté, non, ça fait deux. Et c'est d'ailleurs extraordinaire quand vous voyez le nombre de gens qui défilent pour demander la libération de la Palestine dans le monde entier. Et vous constatez qu'au sommet, il y a les États-Unis, un seul pays, qui bloque le monde entier par un droit de veto. Et vous constatez qu'il y a les Israéliens, les dirigeants, et puis tout un tas de personnes, plus ou moins, et les entreprises et tout, qui sont alignés sur cette idéologie d'extermination des Palestiniens. Mais vous vous dites, mais enfin, on comprend pas, on comprend pas. C'est difficile à comprendre, mais si vous rentrez dans le morbide, Vous pouvez comprendre. Alors ici, nous, on a quoi? Pourquoi je dis morbide? Le président de la République, M. Paul Biya, il vient de reconduire, parce qu'on ne sait pas comment on s'est reconduit. En fait, ici, il y a une partie de sénateurs qui est nommée, carrément. Ça, le pouvoir du prince. On nomme un sénateur, mais c'est d'un ridicule parfait. Il représente quoi? Il représente le chef de l'État, il représente le parti ou il représente lui-même. Mais il ne peut pas représenter le peuple, surtout pas. Et surtout, c'est même des gens qui n'ont aucune compétence, soit dit en passant. Alors, le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui a la majorité absolue partout, s'est réuni en conclave et a élu, réélu, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Le président du Sénat, il était malade, il est revenu en catastrophe de la France, je ne sais pas où il se soigne depuis, il est revenu, c'est vraiment quelqu'un, un linge tout blanc, c'est-à-dire vraiment, c'est un légume, c'est un légume, et tout le monde peut le voir, hein. Vous allez sur Google, vous verrez pas, c'est un légume. Il est revenu, il dirige le Sénat, après avoir été en ponte du gouvernement, bien sûr, avoir géré, je crois, la société d'électricité, l'ancêtre d'Eneo camerounaise, il revient de son voyage très malade parce qu'il faut élire le président, il faut réélire et on a réélu là. Il a 90 ans, très malade, à peine s'il peut s'exprimer, il est là, il fait son pitre, un peu comme Biden, c'est les mêmes gens. Il paraît qu'il est président de cette assemblée depuis 11 ans que l'assemblée a été créée, au moment où les gens se posent même des questions sur l'opportunité du Sénat. Dans des pays comme les nôtres, où il n'y a pas d'argent, pays africain, et là, où il y a trop de chômage, où l'économie laisse tomber, et donc là, il est réélu, enfin il est renommé, reconduit dans son mandat depuis 11 ans à dormir, à ne glander, à glander que du vent là-bas au Sénat. Et de l'autre côté, on a eu dans la foulée le président de l'Assemblée nationale, 84 ans apparemment. Lui, il est là depuis 30 ans. Ouais. Ça va, c'est pas depuis le début de l'Assemblée nationale, mais ça fait 30 ans qu'il est réélu tranquillement. C'est plus de la comédie, c'est. On va dire tragicomédie, même pas. C'est que du ridicule et de l'absurde, c'est l'Afrique. Et on aime bien cette Afrique-là, c'est elle qui passe dans le monde parce que personne, aucun dirigeant à l'étranger ne dira rien contre cela. Au contraire, c'était la norme avant l'heure. Alors, on les a réélus pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme travail à faire parlementaire dans un pays où les détournements de fonds publics sont monnaie courante? La corruption et la culture ambiante, les passe-droits, les fils de ceux qui sont déjà en place, qui sont admis dans les écoles pour les succéder, une arrogance qui n'a pas de nom. Mais je sais pas. Alors, on a ça, vous pouvez vous plaindre, c'est votre problème. Ça ne dit rien parce que le gouvernement est arrogant et suffisant. Et il y a une ministre de la ville alors, qui a demandé, j'oublie son nom, elle a demandé aux gens qui se plaignaient, il y avait quoi avant? Dans un cynisme. Elle dit, ah. Oh, je vais pas dire le mot parce que vraiment, poser ce genre, il y avait quoi avant, genre le Cameroun, c'est maintenant qu'on travaille, avant il n'y avait rien. Faux, archi faux. Le Cameroun a régressé à une vitesse phénoménale et que le pays qui était en pointe devant la Chine dans les années 80 se retrouve aujourd'hui à supplier les Chinois à venir leur construire des routes ou devenir. Faire la topologie de leur territoire, localiser probablement des matières premières. Bon, quand elle pose la question comme ça, les réponses sont arrivées, ont commencé à arriver vite, mais là, je vois ces jours-ci qu'il y a eu une censure sur les réseaux sociaux parce que c'était inconsciemment, involontairement, comparer deux bilans, le bilan du président Ahidjo contre le bilan du président Biya. 40 ans de mandat, Ahidjo n'en a pas fait 40, je ne sais pas, non. Je veux dire une comparaison foudroyante, parce que le Cameroun avant, On a pris le cas de la compagnie aérienne Cameroun Airlines, classée sixième compagnie à une certaine époque et qui se retrouve internationale, hein, au niveau international, et qui aujourd'hui se retrouve avec des avions cassés, il n'y a plus rien, c'est la faillite, c'est la banqueroute. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont même pas comparables parce qu'on a fait comme la France, on a bradé tous les joyaux de la République à qui, vous savez, à leur maître. Et la question que on devrait lui poser à ces dames, c'est pas qu'est-ce qu'il y avait avant, c'est peut-être qu'est-ce qu'il n'y avait pas, parce qu'aujourd'hui, il y a exactement ce qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas des gens qui volent et qui paradent, on n'a pas des gens qui font rien et qui sont nommés. On a un système, on avait un système au mérite. Aujourd'hui, on a un système par cooptation ésotérique. Non, ça va pas, ça va pas. Et là-dessus, quand on commence toutes ces grandes manœuvres avec mépris pour conserver le pouvoir et que vous voyez l'état de la déliquescence morale du Camerounais. Alors, je prends deux autres exemples, toujours dans l'actualité aujourd'hui. On a d'abord celui d'un joueur, un joueur camerounais, Douala, qui s'appelle, et on a parlé de son âge. Oui, l'âge n'était pas bon, l'âge était faux, peut-être que, peut-être cela. Finalement, peut-être que l'âge est bon, mais rien que de penser que cela est possible d'avoir un faux âge est déjà en soi problématique. Parce que ça dit que vous pouvez faire votre acte de naissance où vous voulez. Mais mieux que cela encore, c'est la question qui est arrivée derrière. Oh, ben oui, c'est des doubles nationaux. L'équipe du Cameroun n'était pas en règle parce que 62 joueurs auraient la double nationalité et gna gna gna, et gna gna gna. Ici, la médiocrité ambiante, quand je dis médiocrité, c'est en fait ces gens qui ça sont là sans mérite, hein, parce qu'il n'y a plus de système méritoire qui vaille. Cette médiocrité fait qu'on a trouvé un bouc émissaire, c'est la diaspora. Ah, ceux qui veulent conserver le pouvoir ont un bouc émissaire. Non, non, la diaspora, on n'en veut pas. On veut pas, pas de droit, vous n'avez droit à rien, vous revenez plus, vous êtes déjà français, vous êtes déjà. Mais quelle absurdité, vraiment. Le français, il est américain, il est canadien, il est ce qu'il veut. Quand il arrive en France, c'est pas la France qui lui dira non, 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 vous n'êtes plus français, vous êtes américain. Mais pourquoi l'homme noir est aussi idiot et aussi, il ne sait même pas s'il est malléable, mais c'est un être qui souffre tellement de petitesse dans son esprit que qu'est-ce que ça peut bien lui faire que quelqu'un ait une nationalité. Je dis, ah, idiot, justement, en parlant de bilan, qu'est-ce qu'il faisait quand vous reveniez de France? Tout ce qui l'intéressait, quelle était votre expertise et vous étiez appelé à aider le pays. Voilà, quelle était votre expertise? C'était tout. Regardez pas si vous avez été américain, si vous avez. Ici, on a toujours un petit fond de petitesse, de jalousie. Là, et les Français, oui, qui rentrent en France. Mais en fait, c'est pas ça. C'est parce qu'on est bien dans son confort de faux nègre, là, qui. Oh là là, c'est d'une connerie. Je vois pas comment c'est la France qui peut venir dire au Cameroun ou à la Côte d'Ivoire, je sais pas où. Ah non, 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 rejetez vos. Je sais même plus comment nous on peut s'appeler. Rejetez-les, c'est la diaspora, ne prenez pas. Mais parce que la France ou l'Allemagne ou je sais pas n'importe quel pays sait très bien qu'ils peuvent berner ceux qui sont ici localement, mais ils peuvent pas berner ceux qui étaient là-bas. Si la Chine, l'Inde et tous ces pays ont explosé comme ils ont explosé, qu'est-ce que vous croyez? C'est parce que la diaspora est revenue et qu'elle savait exactement ce qu'il fallait faire. Mais ici, non, non, les compétences, on n'en veut pas parce qu'on aura quelqu'un qui a été maire d'un petit bourg qu'on appelle Baganté, quelque part, un petit village, et il a bien balayé les rues et tout, et tout. Et parce que cette personne a épousé quelqu'un qui connaîtrait Madame Royale dans leur réseau, et donc finalement, par ce réseau de cooptation franc-maçon et tout ce que vous voulez, LGBT, socialiste, mondialiste, vous retrouvez comme ça quelqu'un qui était dans son bled là-bas, n'est même pas capable de savoir c'est quoi la décentralisation. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut que gueuler. Alors, on a ça, on a eu la décentralisation. Oh, décentralisation. Laissez nourrir. La décentralisation, déjà, elle a foiré en France. Alors imaginez ici. Ici, c'est du pipeau. Parce que d'abord, les personnels ne sont pas formés. Et après tout ce que je vous dis, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre la décentralisation? Rien, rien, rien du tout. Donc, on navigue comme ça en petit black, Yabon, Banania. On essaye de recopier le petit blanc comme on peut. Mais c'est pathétique, c'est pathétique. Alors, finalement, on arrive à la jeunesse. À chaque fois, le 11 février, je ne sais pas si la fête de la jeunesse est internationale ou elle est que nationale, ici c'est ça, le chef de l'État prend un discours, l'avenir de la société, c'est la jeunesse, bien sûr, en attendant, il n'y a que les gens de 90, 84 ans qui sont en fonction, les plus jeunes, 70, et à côté de cela, il y a déjà, je ne l'ai pas dit, c'est qu'on est ici entre le Premier ministre et ces deux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale qui sont bien placés, les quatre personnes les plus hautes dans la sphère du pouvoir pour remplacer le président. Bah, les trois autres, c'est un peu des zombies. Voilà, donc il n'y a pas match. C'est pour ça qu'il faut qu'on les conserve, parce que si on met quelqu'un là-bas, de tonitruant, dynamique, ça va pas donner, ça va faire la mauvaise concurrence. Alors le chef d'État arrive toujours, parce qu'ici, celui qui est en vue, ce sont quelques ministres, et puis surtout le secrétaire général de la présidence. Voilà, c'est lui qui parle. Je crois d'ailleurs, on croit savoir qu'il a la signature présidentielle. Donc, ce sont eux qui écrivent sur leur discours, c'est l'avenir du pays, c'est la jeunesse, la jeunesse des grands filous. La filouterie a communiqué, je vais dire, comment dire, elle s'est propagée dans toute la société au point où, franchement, la jeunesse s'encore pire, c'est perdu là-bas. Ils naviguent entre les faux clichés occidentaux là, et les faux modèles, et puis ici ils sont complètement déphasés. Moi je prends un exemple. Alors vous prenez des jeunes ici, vous leur proposez, parce que je suis dans un bourg, c'est très bien, de temps en temps avec Yaoundé, mais en ce moment je suis vraiment dans le bourg, je suis dans la terre. Je suis dans la terre, j'essaie de voir comment on peut aider les Africains dans les villages. Alors dans les villages, les campagnes, comme on dit, il y a des champs à faire, vous les appelez. Ah, vous savez faire les champs? Oui, normalement, ils savent parce qu'ils ont grandi dedans. Ils sont au lycée, oui, venez, vous allez faire ci, vous allez faire ça. À tous les coups, ils vont vous escroquer. Ils font pas le travail, le travail est mal fait. Oh, on a fait, oui, on a fait, ils discutent, ils discutent, ils discutent. Ils ramassent le fric, ils s'en vont du boulot de merde. Donc vous savez déjà que c'est des mauvais élèves. À la base, il n'y a rien qui fait en sorte que le Camerounais se sente un tant soit peu soucieux de bien faire quelque chose pour la fierté personnelle, je veux dire le goût du travail bien fait. Il n'y a pas ça en Afrique. On copie directement ce que les grands pontes font là-haut, le détournement des fonds publics, le travail à minimum, la corruption à gogo, les faux modèles, et puis on attend peut-être le chef d'État va nous nommer, on va aller au parti. On copie cela et on dit que c'est la jeunesse qui est le futur du Cameroun. Surtout pas, au secours. Surtout pas. Il y a un qui vient de mourir là parce que ici, dans les campagnes africaines, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de moyen de transport, donc il y a la moto a pris beaucoup d'essor et c'est très pratique parce qu'il n'y a pas de route aussi, ça fait très bien, on rentre dans les villages avec, on peut porter sa marchandise. Alors, beaucoup d'élèves ne vont plus à l'école, ils font la moto, c'est très bien. Sauf qu'avec ça, on commence à voler, le vol devient plus facile. Avec ça, si quelqu'un leur fait un contrat, location, oui, prends la moto, on fait un peu ceci, on fera comme ça, on partage, et ils rapportent pas la recette, ils sont rentrés dans un autre banditisme qui est bizarre, et qui est très bizarre. Et donc, l'avenir de la jeunesse, enfin, l'avenir de l'Afrique par sa jeunesse, non. Il faut oublier, il n'y aura pas. Ça ne se passera pas. Donc, voilà un pays dont les dirigeants sont vieillissants, dont la jeunesse est perdue, et on se demande où va aller ce pays? Où vont aller ces pays avec cette moralité de grand banditisme? Je ne sais pas, c'est. On en est là, quand on va faire l'élection présidentielle, tout le monde est dans le malaise. Bien sûr, il manque l'eau potable, l'eau courante, il manque les routes, elles ne sont pas goudronnées, il manque, il manque, il manque. On va pas lister, parce qu'on ne va pas s'en sortir, on ne liste pas. Bon, alors, là-dessus, au lieu de créer des conditions pour peut-être rattraper le coup, il n'est jamais trop tard. Non? Oh, ça revient avec les interdits, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ci. Mais ces interdits sont confortés par ce qui se passe à Gaza. Quand on tue les gens comme ça et que M. Joe Biden ne peut pas hein, accepter un cessez-le-feu, et tout le monde perd son latin, on ne comprend pas. Au contraire, maintenant que M. Trump va être très très fort dans les sondages, parce que quand même, ça se voit trop, qu'est-ce qui s'est passé? Madame Haley, qui a quand même abandonné la course parce qu'elle ne pouvait plus, ce qui lui donnait du fric. Vous voyez, elle était numéro 2, très très loin. Trump était trois fois plus haut qu'elle, mais les gens trouvaient quand même qu'il fallait donner de l'argent à elle. Elle avait plus d'argent en étant bonne dernière que le premier. Vous voyez un peu le monde aujourd'hui. Celui qui est en train de perdre, mais parce qu'on peut le manipuler, on lui donne plein de souhaits. Celui qui gagne, là, parce qu'il mérite, non, 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 il donne rien. Tous les soutiens de Madame Haley sont passés à Monsieur Biden. Donc maintenant, ça se voit. C'était quoi leur rôle? On a très bien vu. Ils ont envoyé des gens là-bas pour faire gagner ça, et finalement, ça n'a pas donné. Et là-dessus, vous avez le changement climatique. Toutes voyez, toutes les narrations qui sont apportées depuis, qui sont fausses, le changement climatique, blablabla. Non, quelqu'un a dit, tant qu'on ne respectera pas la nature et qu'on veut imposer à la nature nos desiderata, mais bien sûr qu'il y aura des problèmes, la nature va réagir. Par exemple, tout ce qu'on balance en l'air là, hein, ils envoient, je sais pas, pour déclencher la pluie, pour faire ci, pour faire ça, pour déclencher des microclimats par-ci, par-là, ben, ça revient, la nature réagit. Donc, si pas, il n'y a pas de changement climatique en tant que tel, il y a des mauvaises politiques qui sont soutenues officiellement par ce on est supposé avoir élu. Quelle démocratie représentative! Un piège mortel! Vous élisez les gens pour qu'ils vous représentent et finalement, vous vous rendez compte qu'ils se sont organisés, ils ont organisé une narration. En fait, ce sont vos ennemis. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous leur avez transféré tous les pouvoirs. Comment faire pour les reprendre? Ça va être la question centrale de toutes les élections qu'il y aura, qui vont se tenir. Comment reprendre le pouvoir aux mains des charlatans qui se sont présentés devant les peuples avec le violon de la démocratie, des droits de l'homme, de la liberté, de nous sommes tous pour la justice sociale. Non mais on ne sait plus quoi penser ni quoi dire. Sinon, on va terminer hein, par SOS Maman, quand même, parce que. Le président Macron, pour quelque temps encore, après on n'en parle plus, heureusement, a inscrit dans la Constitution le droit à l'avortement et tout ce que vous voulez, vente des fœtus et tout ce que vous voulez. Bon. Déjà qu'on ait un seul député parlementaire qui puisse voter cette histoire-là, parce que c'est vraiment le degré zéro de la pensée politique, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ceux qui connaissent les humanités, savent que la Constitution s'est écrite sur un grand principe qui est le respect de la vie. On n'écrit pas la Constitution pour la mort. On n'écrit pas la Constitution pour des choses comme les fins de vie, les avortements. Non, non, la Constitution, c'est un projet de vie. C'est pas un projet morbide. C'est pas un projet morbide, c'est très important. Alors, en inscrivant ce genre de choses dans la Constitution, c'est déjà anti-juridique. Ça ne peut même pas passer normalement si on avait des juristes libres dans ce monde. Comme on n'a plus de scientifiques libres, on nous a dit que tous les chercheurs scientifiques disent ce que ceux qui financent leur laboratoire leur disent de dire. C'est scandaleux, parce que ça, c'est des choses qui devraient être financées par l'État exclusivement. Alors, si la Constitution devient le droit d'y inscrire la mort, ben on n'est plus dans le projet civilisationnel, on n'est même plus dans le droit, on n'est même plus. Je veux dire, on ne parle pas de morale. On est dans la Constitution. La République, c'est la vie. Ce n'est pas la mort. On ne peut pas célébrer la mort dans la République. On ne peut pas. On célèbre la vie. Alors, nous sommes à un moment de l'histoire où ce sont ceux qui célèbrent la mort, ceux qui font des sacrifices d'enfants. D'ailleurs, on ne parle pas de la liste d'Epstein, qui comprend toutes les célébrités politiques, financières, économiques, culturelles que vous connaissez, qui y allaient pour la prédation infantile. La justice fait plus son travail et la Constitution devient un grand fourre-tout, les LGBT plus. Qu'est-ce que les LGBT fait dans la Constitution? Récemment, lorsque l'Amérique, la Cour suprême des États-Unis, est revenue sur sa décision de ne pas constitutionnaliser l'avortement, elle a quand même laissé le droit aux États de voir ce qu'ils peuvent faire parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer dans la Constitution, comme le droit à l'avortement. Mais non, ça c'est le droit de mort, de donner la mort, non. Ça, c'est une question de gouvernance, d'administration, ils voient ça là-bas. Et pourquoi, si l'Amérique le fait, c'est la France qui le reprend par l'autre bout pour venir imposer des choses qui après vont réjaillir en Afrique de façon absolument inattendue. En passant par l'absurdité, bien sûr. Bon, amis des radios silence, on essaie juste de trouver les connexions entre les choses, comme on dit, le sens vient du rapport entre les rapports, le rapport des rapports, comme on disait. C'est en mettant les choses les unes accolées aux autres qu'on finit par trouver un peu de sens, un peu de, je vais pas dire de vie. Mais la vie est devenue tellement crispée qu'on n'a plus cette passion qu'il y avait avant, du jaillissement de quelque chose qui ne soit pas contrôlé par tous ceux qui. Ah, oh, c'est pas possible. Alors, je ne sais plus ce que je peux ajouter que vous le sachiez déjà, sauf que on veut arracher la Trump Tower à Monsieur Trump. Parce qu'on lui a infligé une amende qu'il ne peut pas payer. Parce que figurez-vous, hein, c'est comme ça que les nouveaux dirigeants, les démocrates, à la façon Biden, font campagne. Pendant qu'il vogue librement, Trump est harcelé par la justice. Tout son argent qu'il reçoit passe dans les frais de justice. Tout son temps, il le passe. Vous voyez, quand cette culture, quelqu'un ne peut pas gagner dans la transparence, le combat frontal, mais il rentre dans les. Hein, les canalisations de boue pour empêcher l'adversaire d'y arriver. C'est morbide, c'est sordide. Alors on va vous arracher vos biens que vous avez construits depuis 30, 40, 50 ans, alors que eux, ceux qui veulent l'arracher, M. Biden par exemple, il vit que de mandats politiques depuis 40 ans. Hein? Et a sorti de tout ce qu'on dit en ce moment sur la Chine. C'est quelqu'un comme ça, je peux utiliser le mot, qui va venir faire la leçon aux entrepreneurs. Mais quand même, il faut que, là je finis, les blacks, en train de le dire, les noirs et les minorités sont en train de partir de ce parti démoniaque des démocrates. Il faut quitter les démocrates. Ils n'ont rien à apporter au monde, et encore moins aux minorités, comme on dit les minorités, parce que si les noirs africains, les noirs américains, pardon, voyaient, ils savaient ce qui se passe en Afrique, ils ne voteraient jamais démocrate, jamais, parce que ce qu'il y a en Afrique et qui continue à polluer l'Afrique, c'est précisément les amis des démocrates et des socialistes. Hein, tous ces gens perdus, même Mélenchon qui bavarde beaucoup, finalement, c'est pas très clair son truc. Ça va finir comme Marine Le Pen qui va se rallier au En Marche. Cette tendance où on vient en politique pour se servir soi est quelque chose qui, au début, ça faisait un peu genre, oui, bon, d'accord, mais oui, bah. Mais après, c'est pas lassant, c'est pas usant, c'est de la haute trahison. Ces gens méritent, à une époque, qu'on les guillotinerait tous. On dit aux armes, citoyens. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt. Vous avez écouté Flash sur le monde par Élise Mbock. Portez-vous bien.